Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour tous ces chants magnifiques. Et celui-ci en particulier, je l'aime beaucoup. Je l'ai en CD dans la voiture et de temps en temps, je chante. Je ne suis pas sûr que Jonathan me prendrait dans sa chorale, mais enfin, ça ne fait rien. Je chante de tout mon cœur, je crie ce chant ta bienveillance, ô Éternel. Et c'est quelque chose que nous vivons, que nous ressentons. D'ailleurs, c'est par sa grâce que nous sommes là. Que Dieu soit béni. Je salue mes frères bien-aimés dans le ministère. J'ai demandé à Denis s'il voulait apporter la parole ce matin, puisque j'étais là cet après-midi, il m'a dit non. Sinon, c'est avec beaucoup de joie que j'aurais entendu Denis, et je les salue, Madame et Monsieur Bordeneuf, tous les deux. Et combien nous apprécions le travail que Dieu fait avec eux et par eux. Que Dieu les bénisse à tous les deux. Il y a quelques mois de cela, je ne sais si vous vous souvenez, nous avons médité, d'ailleurs c'était, semble-t-il, un des derniers cultes que j'ai fait avec vous, nous avons médité sur l'intimité avec Dieu. Vous vous en souvenez? Et de quel personnage avons-nous parlé? Alors là, entre-temps, il y a tellement eu de réunions de messages que c'est difficile. Hein, je ne vous le demande pas, ce n'est pas un problème. Mais je vous avais montré comment monter l'escalier secret. Vous vous souvenez? En nous servant d'un verset du Cantique des Cantiques. Et cinq hommes qui ont marché avec Dieu. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais prendre toujours dans l'intimité, lire un autre texte de la parole de Dieu que vous connaissez dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, chapitre 2 et le verset 12e. Le verset 12, c'est Boaz qui parle à Ruth et qui lui dit ceci. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Et j'aimerais relire ce texte, verset 12 en tout cas, dans une autre version, qui dit ceci, « Que l'Éternel te récompense pour tout ce que tu as fait, et que... le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Il y a d'abord une récompense qui est promise au départ de ce verset, puis une pleine récompense à la fin. Et j'aimerais voir avec vous comment Ruth a vécu cela, une récompense et une pleine récompense. C'est un petit peu, je dirais, le désir de nos cœurs aux uns et aux autres. Alors, pour comprendre les choses, vous connaissez le livre de Ruth. Qui a lu le livre de Ruth? Pas toutes les mains. Alors, c'est bien que je puisse le résumer. Ce n'est pas pour vous juger ou condamner. Hein. C'est au contraire pour vous encourager à le lire. Dans le livre de Ruth, il est question d'une famille. Naomi, Elimelech et puis leurs deux garçons qui vont quitter Israël dans un temps difficile, dans un temps de famine. Et ils vont aller séjourner dans un pays étranger. Et là, la vie passe, elle passe très vite d'ailleurs. Hein. Je me souviens d'un voyage avec M. Olé, c'était en 73. Et il s'en est passé des choses depuis. Hein. Ça remonte à loin. Et je n'ai pas l'impression, je me dis, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, le temps passe vite, très très vite. Eh bien, le temps a passé vite aussi pour Naomi, Elimelech, Maclon et Kiljon. Et les petits ont grandi et ils se sont mariés. Et puis, la vie a été ce qu'elle a été. Elimelech est mort à l'étranger. Les deux garçons sont morts à l'étranger. Et Naomi s'est retrouvée seule avec ses belles-filles. Puis, elle ne voulait pas rester dans ce pays étranger parce qu'elle a appris que Dieu avait visité son peuple. Il n'y avait plus la famine. Alors, elle voulait revenir au milieu des siens, au milieu de son peuple. Et là, parmi les deux belles filles, une est restée dans le pays, mais l'autre l'a suivie. Et vous connaissez tous ce qui a été dit. Alors, j'aimerais parler. Naomi a quitté. Naomi veut dire beauté, douceur, comme toutes les dames, toutes les sœurs qui sont au milieu de nous. Et je le pense. Et je le pense. Parce qu'il n'y a pas que des beautés physiques. Il y a une beauté du cœur que seul Dieu peut apprécier, sait apprécier, que Dieu soit béni. Et quand elle réalise tout ce qu'elle a vécu. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amertume. L'amertume est arrivée dans son cœur. Les questions, les pourquoi, les comment, etc. Et parfois, quand nous commençons à nous poser des pourquoi et des comment, nous risquons de tomber dans une certaine amertume, nous aussi. Elle a quitté Bethléem, la maison du pain. Et la question que nous pourrions nous poser ce matin, où en sommes-nous à propos de la maison du pain, de la nourriture? C'est sûr que tout à l'heure, notre frère a partagé des pensées sur la Sainte-Seine, mais où en sommes-nous dans notre nourriture de la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas quitté la maison du pain, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour nous attacher à plusieurs choses et à pas mal de choses qui ne nourrissent pas notre âme? Je suis étonné parfois quand, faisant des camps de jeunes, et on m'y invite assez souvent, je suis étonné de voir la jeunesse connaître des noms des gens qui sont dans le monde, des stars, des artistes, des musiciens, toutes sortes de choses. Mais vous leur posiez des questions sur des missionnaires ou sur des personnages de la parole de Dieu, mutisme. Mais écoutez, en toute humilité, moi les noms des stars, je ne les connais pas. Si je devais passer un jeu radiophonique et qu'on me pose cela, je ne les connais pas. Mais parlez-moi de la parole, ça me plaît. Et c'est important. Parce qu'on risque d'abandonner petit à petit une certaine valeur de la parole, un certain amour, intérêt pour la parole, pour nous attacher à des choses. Et ça, c'est une perte. Elle a quitté Bethléem Ephata. Et ça veut dire fécondité. Vous savez, quand on commence à quitter la parole dans l'amour que nous lui portons, eh bien on arrive à une certaine stérilité, sécheresse d'une vie rétrograde. On est chrétien, nous venons, nous participons aux réunions, mais il n'y a pas la vie que Dieu voudrait, la vie que Dieu attend. Elle a quitté Judas, sa tribu, qui veut dire louange. Et quand on quitte la louange, on devient amer, amertume, insatisfait, révolté. Et parfois, on n'a plus envie de louer Dieu. On a quitté. La base, c'est quand même la parole. Il y a eu un abandon de la parole, une négligence de la parole. Et puis notre vie devient sèche. On n'a plus envie de louer, alors on chante. Mais notre louange personnelle, ou je dirais notre participation dans le chant, dans la louange, c'est pas simplement que le son d'une voix, mais c'est une vie qui est en nous. J'avoue, très sérieusement, que j'aime beaucoup vos chants. Il y a un mélange. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens, et j'aime les paroles. Je suis très attentif aux paroles des chants. Parfois, on chante un même chant, c'est toujours une répétition d'une même phrase qui revient. J'avoue que personnellement, ça ne m'enchante pas. Mais quand je me souviens de certaines phrases, et justement, pendant un moment d'épreuve, je peux être amer, et puis je chante un chant, cette phrase, elle me touche. Elle me fait du bien. Ce cantique m'a aidé. Je prends un autre exemple. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Nous étions dans une église et on chantait un chant qui est beau, du reste, il n'y a aucun problème. Et puis on disait, je suis prêt à aller dans le monde entier. Puis je me suis tourné à côté de celui qui était à côté de moi. Je lui ai dit, t'es prêt à quitter ce que tu as pour aller dans le monde entier? Elle m'a dit non. J'ai dit, pourtant tu le chantes. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Et Madame Bourneuf, que vous en pensez, hein? Vous voyez, au travers d'un chant, Dieu peut nous interpeller, mais en même temps nous amener à le louer encore davantage. Oui Seigneur, tu sais ce que je suis prêt à faire pour toi. Et puis elle a quitté Israël, son peuple. Et Israël, vous savez ce que ça veut dire? Lutter avec Dieu ou lutteur avec Dieu. Est-ce que je n'ai pas maintenant baissé les bras? Je ne combats plus. Je vis ma vie chrétienne comme cela, sans combattre, alors que nous sommes une armée de combattants. combattant. Justement, petite parenthèse que je fais, je trouve que ce qui manque à nos chants, dans bien des églises, je ne parle pas d'ici, je vous assure, mais c'est cette vigueur, cette ardeur à vouloir combattre. Nous sommes l'armée de Dieu. Ne l'oublions pas. Et nous luttons contre les principautés. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais il y a la puissance des ténèbres, la puissance du diable qui est à l'homme dans ce monde. Et qui peut lui résister? L'Église de Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à combattre. Non pas contre la chair et le sang, je le répète. Mais comme le dit l'apôtre Paul, contre les esprits mauvais qui sont à l'œuvre. Et l'Église doit être un peuple de combattants. Une Église combattante. Et j'aime parfois ces chants. Je pense à certaines conventions que nous avons eues. J'étais encore bien jeune. Et je pense à ces chants que nous chantions. Là, il fallait voir tous ces frères. C'était des chants, excusez-moi le mot, virils spirituellement. Et des chants qui nous entraînaient dans l'adoration, dans le combat. Et je bénis le Seigneur d'avoir connu de tels temps, que Dieu puisse nous rappeler ces choses-là. Alléluia, nous sommes des combattants, des vainqueurs. Nous sommes appelés cela, à cela. Alors, voilà Naomi, elle a quitté dans un temps difficile. Bethléem, Ephrata, Juda, Israël. Elle séjourne et là, les épreuves arrivent. Et quand on commence à quitter ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, on se trouve vite au milieu des difficultés. Et vous savez, une chose est certaine, le diable s'attaque particulièrement à ceux qui sont vulnérables. Souvenez-vous d'Amalek, il vint vers le peuple d'Israël par derrière, sur tous ceux qui étaient las et épuisés et fatigués. C'est là qu'il les attaque. Et quand on commence à diminuer dans notre vie spirituelle, il y en a un qui le sait. Et c'est là qu'il vient nous attaquer. Et les épreuves sont là. Mais j'aimerais quand même aussi vous dire que Dieu se sert même de nos erreurs, de nos failles, de nos faiblesses pour nous parler et pour parler à d'autres. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Regardez, il s'est même servi de Jonas alors qu'il fuyait pour parler aux marins dans le navire. Il faut le faire, hein? Ça, c'est Dieu. Et il va se servir même de Naomi pour parler au cœur de Ruth. Et quand elle voudra se séparer de Ruth, Ruth lui dira, « Non, non, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » C'est une conversion. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va appartenir au peuple de Dieu. Elle veut aller là où le peuple de Dieu est. Elle veut rester dans la présence du peuple de Dieu. Elle veut même accepter l'opprobre du peuple de Dieu. Parce qu'Israël n'a jamais été aimé. Ce n'est pas encore maintenant qu'il l'est. Hein? Nous le savons. Mais nous en savons la cause. Eh bien, elle accepte tout cela parce qu'elle s'est donnée. Et cela grâce à Naomi, qui pourtant a fait une erreur. Mais la grâce de Dieu, elle est au-dessus de nos faiblesses. Je le disais il y a quelques instants, c'est bon de savoir. Afin que quand, eh bien, comme la Bible nous le dit, quand nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Ne restons pas enfoncés, culpabilisés, mais puissions-nous relever la tête. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il ne tient plus compte de cela. À nous d'en tenir compte, non pas en nous culpabilisant, mais pour éviter de refaire les mêmes erreurs, que Dieu soit béni. Et alors, eh bien, on assiste à partir de là à toute l'histoire de Ruth. Et pourquoi j'aime parler de Ruth? Eh bien parce que Ruth veut dire « amitié ». Et ma question ce matin, est-ce que j'ai de l'amitié pour Dieu ou un amour profond et réel? Voilà la question. C'est ça l'intimité. L'intimité, ce n'est pas de l'amitié. On peut avoir des amis, mais ce n'est pas eux que vous irez raconter je dirais, les circonstances les plus délicates de votre vie. Vous ne le ferez, vous ne le partagerez qu'à un ami intime. Il faut plus que de l'amitié, il faut un amour profond. Alors y a-t-il amitié ou amour? Ruth veut dire, je dis, amitié. Alors que se passe-t-il? Eh bien, Ruth, dans le chapitre 1er, nous la voyons découvrir la foi, l'amour pour le peuple de Dieu, puis son énergie. Elle va rentrer avec sa belle-mère dans le pays promis, pays d'Israël. Elle va en faire son peuple et puis elle va chercher du travail. Vous savez, ça c'est l'histoire de ceux qui se convertissent. Il y a de l'énergie, on veut faire beaucoup de choses pour Dieu. Quand je me suis converti, j'ai cru que j'allais convertir le monde. J'ai déjà eu du mal à être un moyen pour convertir ceux qui étaient les plus proches. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais là, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que cela, et Dieu sait ce qu'il fait. Puis au chapitre 2, elle grandit dans la grâce de Dieu. Elle trouve du travail, et puis on prend soin d'elle. Et c'est cela, dans le fond, quand on se convertit, eh bien, on vit dans la grâce de Dieu. Et on apprend. On apprend que Dieu est fidèle, que Dieu est là, que l'on peut compter sur lui dans bien des domaines, pour le travail, pour la santé. On peut compter sur lui dans d'autres domaines qui nous sont plus ou moins personnels. On vit dans la grâce de Dieu. Ah, j'aime cette expression. Enlevez le mot « grâce », il n'y a plus de vie chrétienne. Ça n'existe pas. Tout nous est donné par grâce. Et grâce sur grâce, ajoutera le Seigneur, comme des vagues, hein, qui arrivent à Dieu soit béni, la grâce de Dieu. Et puis au chapitre 3, elle recherche. Son âme a soif. Son âme recherche. Elle désire autre chose. Et il arrive des moments dans notre vie, et je sais que c'est ce que vous vivez, vous ici, quand je vois le programme, les moments de prière, la recherche. Je m'excuse de dire cela, mais vendredi soir, avec quelques membres de l'équipe Revivre, nous sommes venus là pour prier avant d'aller dans les rues. Et il y a quelques personnes qui se sont retrouvées à côté, priant, recherchant Dieu. Ça, c'est formidable. Quand on recherche Dieu. Une recherche de Dieu. Et je le vois là. C'est tellement bon. Elle recherche Dieu. Il y a quelque temps, je me trouvais au Brésil pendant l'été, et comme c'était un congrès international, il y avait chaque soir, donc chants, prédications, etc., et il y avait une pièce qui était représentée, pièce biblique, par des jeunes qui venaient d'églises avoisinantes. Et à un moment donné, il y en a une, mais qui m'a toujours touché. Déjà l'année dernière, je les avais vus. Et là, cette année, je les voyais. Je voyais ces jeunes. Et tandis qu'ils faisaient la pièce, ils louaient Dieu en langue. Je les voyais. Je les entendais même à la limite. J'étais devant. Je les entendais parler en langue. Je disais, mais quelle onction, quelle bénédiction. Et je vous assure, ça se transmettait à tout l'auditoire, qui était des milliers de personnes. Et quand vous prêchez après... Vous êtes baigné, vous êtes trempé dedans, hein, c'est déjà formidable. Et après, je suis allé trouver le pasteur, c'était sa fille qui était responsable de ce groupe de jeunes. Elle m'a dit, mais pasteur, depuis 7 jours, on jeûne et on prie pour cette représentation. Je m'excuse de ce temps de silence. Mais ça nous amène à réfléchir. Depuis 7 jours, elle savait qu'ils allaient faire cette représentation. Ils jeûnaient, ils priaient. Je comprends l'œuvre de Dieu au milieu de l'auditoire. Que Dieu soit béni. Il y a une recherche en nous. Il y a une recherche dans l'Église. Il y a une recherche au milieu du peuple de Dieu. Il y a une soif dans les chrétiens. Ils ne veulent pas se contenter de quelques miettes. Mais ils veulent voir la gloire de Dieu. Je l'ai vu quand vous interprétez vos chants. Vous voulez voir la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. On a soif de Dieu, non pas simplement une amitié, une petite approche, mais on veut le Seigneur. Alors ça c'est le chapitre 3. Puis alors au chapitre 4, on s'aperçoit qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle rentre dans le repos, vous le comprendrez. Alors, qu'est-ce que j'appelle rentrer dans le repos de Dieu? Qu'est-ce que j'appelle avoir trouvé ce que nous recherchons? Eh bien, c'est important de le réaliser. La Bible nous dit, celui qui cherche, trouve. On s'en sert dans l'évangélisation. Mais quand Jésus s'adresse à ses disciples, ce n'est pas dans l'évangélisation, il s'adresse à ses disciples. Il doit y avoir une recherche de plus en plus importante dans nos vies. Quand nous étions dans les Charentes, nous avions une famille coréenne qui venait à nos réunions et nous avons eu la joie de les voir certains membres de leur famille se tourner vers Dieu. Et il y avait un petit garçon qui avait à l'époque 7 ans, 8 ans, qui était là, bien mignon, je m'en souviens. Et puis nous avons quitté la région des Charentes, nous sommes allés dans la région parisienne et nous avons perdu de vue cette famille coréenne. Entre-temps, ils étaient allés à Paris, ce que nous ne savions pratiquement pas, puisqu'on l'a découvert qu'à la fin. Et le petit garçon en question, c'était un jeune homme. Et ce jeune homme était dans le monde, ce jeune homme réussissait dans bien des domaines, tant le sport que les études, mais également, hélas, il était plongé dans le mal, dans le péché. Ses parents étant allés aux États-Unis, il sentait que ça allait de plus en plus mal pour lui, et il téléphonait à ses parents en disant « Ce n'est pas bien, je sais que Dieu attend de moi autre chose ». Et tandis qu'il parlait et téléphonait à ses parents aux États-Unis, ses parents lui ont dit « Tu connais le pasteur Galifot, va le trouver ». Mais on s'était perdu de vue depuis une dizaine d'années. Et alors il a commencé dans les églises de la région parisienne, à aller dans une église, il ne savait pas lesquelles, il a demandé « Vous connaissez le pasteur Galifot ?» Non. Il est allé dans une autre, « Vous connaissez le pasteur Galifot ?» Non. Il est allé dans une autre, « Vous connaissez le pasteur Galifot ?» Non. Ça me fait penser à la lettre que vous avez reçue un jour du Tchad, pasteur Galifot en France. Et puis enfin, il est arrivé dans une église, on lui dit oui, il se trouve là. Et le petit jeune homme en question est venu. Nous avons été étonnés de voir un grand gaillard, enfin, grand par rapport à moi. Et puis, nous avons eu la joie de le voir se tourner vers Dieu, se convertir, et aujourd'hui, c'est un de nos gendres. Il cherchait, mais à l'époque, il ne cherchait pas la fille. Il cherchait Dieu. C'est important, hein, de le réaliser. Il cherchait Dieu et il a trouvé le Seigneur. Nous avons une soif de Dieu. Est-ce que réellement, nous sommes satisfaits? Si vous me dites oui, je serai un peu déçu. Mais est-ce que nous sommes satisfaits de vivre une vie chrétienne comme nous la menons? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Moi, j'en suis convaincu. Dieu soit béni pour ce qui a été fait. Dieu soit béni pour ce qui est encore fait. Mais moi, j'ai soif encore d'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? On veut tellement voir des âmes de plus en plus nombreuses sauvées. On veut tellement voir la gloire de Dieu dans les églises. On veut tellement voir de choses se passer. Alors, elle avait soif. Et parce qu'elle avait soif, elle attendait autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? Eh bien, elle va découvrir, par les enseignements de sa belle-mère, non pas se contenter de bénédictions, mais à rechercher celui qui donne les bénédictions. Car quand elle cherche du travail, elle en trouve. Elle revient auprès de sa belle-mère, c'est formidable, elle a pour se nourrir elle et nourrir sa belle-mère, c'est bien. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu pourvoit tous nos besoins. D'une manière ou d'une autre, que Dieu soit béni. Et je dirais même mieux, il pourvoit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas simplement pour citer et dire des paroles, mais c'est la réalité que de fois, j'ai vu Dieu pourvoir au-delà de ce que nous demandons ou attendons de sa part. Mais je vais plus loin. Sa belle-mère va l'inciter à autre chose. Elle va lui dire, tu sais, cet homme, il est seul. Elle va mettre dans le cœur de Ruth la pensée de le chercher comme un époux. Et c'est un peu ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Vous vous souvenez quand il se révèle à Pierre dans le bateau. Après avoir apporté la parole, Jésus dit à Pierre, « Avance en pleine eau. » Et puis là, il va y avoir la pêche miraculeuse. Pierre va se prosterner, va dire, « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Cette fois-ci, le mot pécheur a un autre sens, hein, une autre signification. Et il se jette à genoux. Et dès qu'ils accostent, Pierre laisse tout et il suit Jésus. La pêche n'a plus d'importance pour lui. Il ne cherche même pas à vendre, que les gens se partagent ce qu'ils veulent. Ce qu'il veut, c'est suivre celui qui est l'auteur de la pêche. Marie de Magdala, qui était libérée, délivrée des puissances démoniaques, elle reste attachée au Seigneur Jésus. Et vous remarquerez que c'est la première qui ira vers le tombeau lorsque Christ a été mis à mort. Pour elle, sa vie, c'est Jésus. Paul, qui était un blasphémateur, pouvait dire ce qu'il voulait, c'est que je le connaisse, lui. Le connaître. Et l'appel de Dieu est celui-ci. Il nous veut pour lui. Et parfois, le danger qui peut, je dirais, tomber sur l'Église de Jésus, sur les serviteurs de Dieu, et j'en suis un, et j'y suis tombé dans ce piège, c'est de rechercher davantage les bénédictions que Dieu lui-même. C'est de rechercher davantage, je dirais peut-être un nombre, de rechercher certaines choses qui nous élèvent que le Seigneur lui-même. C'est vrai qu'on peut avoir des bénédictions, même sans le rechercher pleinement lui, mais tôt ou tard, eh bien, nous sentirons notre faiblesse. Ce que nous avons besoin, c'est de lui. Lui, Jésus. Lui seul. Et vous savez, quand lui, il est là présent, bien les bénédictions, elles y sont automatiquement, sans même s'en rendre compte. Et là, je m'excuse de m'adresser à mes frères bien-aimés dans le ministère, mais que de fois, l'ayant cherché lui, parfois, nous nous sommes retrouvés, sans même le demander, avec quelqu'un qui est malade, et on priait même pas pour elle, simplement on a mis notre main sur son épaule et la personne a été guérie. C'est vrai. Les frères et les sœurs peuvent le dire. Parfois, c'est tellement vous étiez dans la présence de Dieu, vous étiez heureux, le Seigneur est en vous. Vous avez parlé avec quelqu'un, vous avez commencé à prier, mais sans même le toucher, et puis les puissances ténébreuses se sont manifestées et la personne était délivrée. Vous n'avez pas recherché cela, mais vous étiez tellement rempli du Seigneur que quand il remplit une vie, automatiquement, il y a la bénédiction. Et c'est cela que le Seigneur veut nous amener à réaliser. On n'a pas à chercher, je dirais, une satisfaction dans les activités. Et c'est normal qu'il y ait des activités dans une église. La foi, elle se montre par nos œuvres. Mais ce n'est pas le nombre d'œuvres, je vais me mettre à telle œuvre, je vais me mettre à telle autre œuvre, je vais me mettre à telle œuvre, c'est pas cela qui va faire de moi un bon chrétien. Je suis même contre ce principe. Je suis contre le principe d'être partout à la fois. Je m'excuse, hein, mais si on est partout à la fois, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir cette intimité avec Dieu. Ce qui compte, c'est cette intimité de Dieu. Alors Ruth, ça va, elle travaille, elle a ce qu'il faut. Il y a la bénédiction, il y a la nourriture, elle n'a même pas besoin de chercher dans un autre champ, et en plus, elle reçoit ce qui lui convient. Mais sa belle-mère va l'amener et l'initier à se préparer d'une manière particulière.